Salutations fraternelles au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous des choses incontournables à savoir par rapport à la doctrine du salut. Et le titre de mon message, c'est tout simplement « Des choses à savoir sur le salut ». Deux choses à savoir sur le salut. Et mon objectif est de vous immuniser contre tous les enseignements séducteurs qui visent à vous éloigner de la vision de Dieu pour vous. Et cette vision, c'est la vision du salut. Et je répète que mon désir, mon souci est de vous immuniser, donc de vous révolter, de vous préparer pour que vous ne puissiez pas vous laisser facilement séduire par tous les enseignements qui circulent, par le temps qui coule et qui visent tout simplement à vous éloigner de la vision de Dieu pour vous, qui est la vision du salut. Je vous invite alors à lire avec moi dans Jean chapitre 3. Nous allons d'abord lire du 1er au 7e verset et puis du 14e au 16e verset. C'est un texte que tous les lecteurs de la Bible connaissent très bien. Jean chapitre 3, le premier verset nous dit ceci, qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des dieux. » Et Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « en vérité, je te l'ai dit, Nicodème, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons ici Jésus-Christ mettre en évidence la doctrine du salut. Nous ne devons pas ignorer, en tant qu'Église, que le message du salut est le message fondamental de la foi chrétienne, que le message du salut est le message clé de l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après ce message, la vie de l'homme, comme nous l'articulons aujourd'hui, cette vie ne s'arrête pas au tombeau. Et qu'au-delà du tombeau, deux possibilités se présentent à nous. Première possibilité, nous pouvons vivre éternellement heureux. Deuxième possibilité, nous pouvons vivre éternellement malheureux. Et le tout dépend de nos choix que nous opérons pendant que nous sommes sur cette terre des hommes. Si alors nous sommes qualifiés à vivre éternellement heureux, cela implique, dans le langage biblique, que nous sommes sauvés. Et si par contre, nous ne sommes pas qualifiés à vivre éternellement heureux, cela implique toujours dans le langage biblique que nous sommes perdus. Je récapitule. Le message du salut, c'est le message fondamental de la foi chrétienne. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous puissions mettre beaucoup d'énergie pour enseigner à l'Église la prospérité, pour enseigner à l'Église les miracles, pour enseigner à l'Église les bénédictions. C'est bien. Mais nous ne devons pas perdre de vue que le message clé que chaque enfant de Dieu doit ancrer dans son cœur, c'est le message qui touche à la vie éternelle.
Amen.
Et c'est pour ce message que Jésus-Christ a pris chair et il est descendu sur la terre. S'il y a un seul message que vous devez être capable de prêcher, c'est le message qui touche à la vie éternelle. Et je vous ai dit que au-delà du tombeau, nous avons deux possibilités qui se présentent à nous. J'ai deux possibilités qui se présentent à moi. Tu as deux possibilités qui se présentent à toi, qui que tu sois. La première possibilité, tu peux vivre éternellement heureux. En d'autres termes, tu peux accéder à la vie éternelle. Mais c'est toi qui as le choix, si tu le veux ou pas. La deuxième possibilité, tu peux rater la vie éternelle et vivre éternellement malheureux. C'est que le langage de la foi dit dans des termes terre à terre que tu vas passer l'éternité dans l'enfer. Il n'y a que ces deux choix qui s'offrent à toute l'humanité. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a pas un troisième choix de purgatoire. Il n'y a pas un troisième choix de n'importe quoi. Non, il n'y a que deux choix. Mais ces deux choix dépendent de la façon dont tu vas te comporter pendant que tu es sur la terre. La façon dont tu vas mener ta vie va te conduire soit à vivre éternellement heureux ou soit à vivre éternellement malheureux. Ainsi donc, je vais répéter, frère, que la première priorité de chaque homme ou chaque femme qui décide de devenir chrétien, qui décide de devenir enfant de Dieu, ce n'est ni la poursuite de la prospérité matérielle, ni même la poursuite de la gloire qui vient des hommes, mais c'est plutôt la recherche de la vie éternelle. Parfois, nous venons à l'église, et c'est dommage. Il y a quelque temps, j'ai vu une sœur qui avait des problèmes sérieux se présenter à moi pour dire que je veux venir à l'église, et elle est venue à l'église. Et juste en quittant l'église, l'un de ses problèmes a trouvé une solution, et elle a arrêté de venir à l'église. Vous ne pouvez pas savoir combien de gens vont dans des églises aujourd'hui, justement parce qu'ils ont des problèmes sur le cœur. Et ils s'imaginent qu'ils croient en Jésus-Christ pour que Jésus-Christ donne solution à leurs problèmes. Oui, le Seigneur donne solution aux problèmes. Il peut donner le mariage, il peut donner les enfants, il peut guérir les maladies, il peut donner du travail, il peut donner de l'argent. Et il le fait, nous en sommes témoins. Mais l'essentiel de son action dans la vie d'un homme, c'est d'abord la vie éternelle. La Bible dit que « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il lui arrive de perdre son âme ?» C'est-à-dire, que sert-il à un homme de devenir milliardaire, de devenir un grand président de la République, de devenir un grand banquier, si demain il va laisser tout cela à ceux qui n'ont même pas travaillé pour cet argent et qui vont le dilapider et il va faire face à l'enfer ? La Bible dit, recherchez, c'est le maître qui le dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le mot d'abord ou le mot premièrement est très, 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 très important dans ce verset. C'est-à-dire, dans l'ordre des priorités, nous devons commencer par chercher la qualification pour le royaume de Dieu. Nous devons commencer par chercher la qualification pour la vie éternelle. Frères, sœurs, je vous le dis et je vous le répète encore aujourd'hui, que la vie éternelle est une royalité. Amen. Et que la vie et la mort sont aussi des réalités. L'enfer, c'est aussi une réalité. Et qu'au-delà du tombeau, après votre passage sur cette terre, vous ferez face à une autre réalité, soit d'aller vivre éternellement au ciel, ou d'aller vivre éternellement en enfer. Et vous avez encore le privilège d'entendre Dieu vous parler pour que vous puissiez vous préparer à vous taper une place dans le royaume de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent dans des églises comme par mouvement, comme pour se faire voir, même pour danser, ou même pour chercher des bénédictions, comme je l'ai dit. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ont soif de la vie éternelle, qui fléchissent leurs genoux et qui disent au Seigneur, « Seigneur, viens, Seigneur, fais-moi grâce que ce jour-là, je puisse entrer dans ton royaume et vivre éternellement. » J'ai été surpris et au début de la semaine, j'ai placé un article sur enseignement.com. Et l'article a pour titre, il est encore là, il a pour titre « La débauche est un signe ». Et dans cet article, je démontre comment nous sommes arrivés à la fin des temps et comment la débauche que nos yeux sont en train de contempler jour après jour dans la rue nous serve de signe. Et j'ai exploité le texte de Luc qui nous dit que ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même à l'époque du Fils de l'homme. Et j'ai démontré qu'à l'époque de Noé, la chose la plus importante qui a caractérisé cette génération, c'était la débauche. Une débauche telle que même les anges ont dû déserter leur demeure pour venir flirter avec les filles des hommes. Mais ma grande surprise était que beaucoup de gens ont téléchargé cet article et dans moins de 4 jours, plus de 500 en plus de personnes ont été fascinés par cet article. Et les commentaires, c'est les commentaires que j'ai eu depuis que je place les messages sur enseignement.com. C'est le lot le plus important des commentaires qui ont été faits dans moins de 3 ou 4 jours. C'est plus de 90 commentaires où les gens crient quand même en disant qu'ils sont contents d'entendre des messages comme ça. Il y a un, celui qui a fait un commentaire qui vient du Cameroun et qui a dit, mais c'est ça le message qui doit être prêché au Cameroun où tout le monde ne parle qu'il y a de la prospérité et de l'argent. Vous voyez qu'il y a encore des gens qui ont la soif de la vie éternelle et que lorsqu'ils contemplent ce qui se passe autour de nous, ils attendent que Jésus revienne. Presque tous ceux qui ont fait des commentaires ont manifesté le désir que Jésus-Christ revienne bientôt. Je vais continuer à déployer encore beaucoup d'autres signes, un après l'autre, mais moi-même, je suis conscient, et lorsque je regarde toutes les choses autour de nous, je reste très conscient que Jésus-Christ est à la porte, il vient bientôt. Et parce que Jésus vient bientôt, il est de ma responsabilité de vous sensibiliser, frères et sœurs. Faites tout pour faire de la recherche de votre salut la plus grande préoccupation de votre foi. Que vous soyez jeune, que vous soyez homme. La Bible dit que jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi bien de ta jeunesse. Tu peux aller te promener, tu peux aller au bar, tu peux aller danser, tu peux dire que je suis jeune, très bien. Mais la Bible ajoute que sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Alors, n'attends pas que tu sois appelé en jugement par Dieu. Prends plutôt le temps de te juger toi-même et de t'accommoder au message de la parole de Dieu parce que bientôt le Fils de l'homme va revenir. Eh bien, dans le texte que nous venons de lire ou le texte de Jean que nous venons de lire nous rapporte le récit de la visite nocturne de Nicodème à Jésus-Christ et comment Jésus en a profité pour nous révéler deux choses incontournables que nous devons savoir par rapport à la vie éternelle. La première chose que nous devons savoir se trouve au verset 16. Et là, c'est la foi en Jésus-Christ. Je répète, la première chose que nous devons savoir en rapport avec notre salut se trouve au verset 16, même encore au verset 15. Et cette première chose, c'est la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, à partir du verset 15, disons 14 même, que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, amen, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, deux fois quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, avoir la foi en Jésus-Christ est la toute première chose que nous devons savoir et que nous devons faire pour nous qualifier à la vie éternelle. Avoir la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Jésus-Christ. Et lorsque la Bible dit que nous devons avoir la foi en Jésus-Christ pour être sauvés, ou même nous devons croire en Jésus-Christ, cela ne veut pas dire que nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus-Christ est blanc ou noir, mais plutôt nous sommes sauvés parce que nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Dieu béni éternellement. Je répète, Lorsque la Bible dit que nous devons croire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés, cela ne veut pas dire que nous devons croire que Jésus-Christ a été blanc ou que Jésus-Christ a été noir. Non. Nous devons plutôt croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Dieu béni éternellement. Jean chapitre 20, verset 31 et verset 30 à 31, la Bible dit ceci que Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Ici, Jean nous fait comprendre que tous les miracles de Jésus-Christ que nous lisons dans la Bible ne représentent pas la totalité des miracles qu'il a fait. Et que Jésus a fait beaucoup de choses, beaucoup de miracles. Au point que si on se mettait à les mettre sur écrit, on n'aurait pas de la place dans l'univers pour pouvoir contenir le volume et le volume. Mais la Bible ajoute quelque chose de très important que j'aimerais que vous puissiez fixer dans votre esprit. C'est que, mais ce qui a été écrit, ce que nous avons au devant de nous ici, a été écrit pour un objectif, pour un but. Ce but, c'est que cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Donc, lorsque vous lisez la Bible, même un seul verset que vous allez lire, qui est écrit dans le Nouveau Testament, ce verset ne vise qu'un seul but dans votre vie. Il vise à vous amener à comprendre que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, à vous amener à croire en lui pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Pourquoi je vous parle de ces choses? Il y a sur Internet aujourd'hui, je sais que l'Internet c'est comme un océan où vous trouvez toutes sortes de choses. Vous allez trouver des très bonnes choses, mais vous allez trouver aussi les pires des choses que vous puissiez connaître dans le monde. Vous allez trouver des très bons messages qui vont vous bénir, mais vous allez aussi trouver des messages corrompus qui peuvent bloquer votre accès au salut et vous devez faire attention en tant que des enfants de Dieu. J'ai auditionné pendant plusieurs heures sur Internet une série de messages que j'ai attribués à une école. C'est une école qui soutient des choses que moi je ne soutiens pas lorsque je lis ma Bible. La première chose que cette école soutient, c'est que Jésus-Christ était noir. La deuxième chose que cette même école soutient, c'est que il était né dans l'Afrique ancestrale. La troisième chose que cette école soutient est que le Jésus du Nouveau Testament est un faux Jésus-Christ. Et que le vrai Christ est le frère qui donne ses prédications, dit que le vrai fils premier-né est descendu sur la terre il y a longtemps, très très longtemps. Mais avec mon intelligence qui est déjà vaccinée, je comprends que le fils premier-né de qui il parle, qui est sur la terre depuis très très longtemps, c'est l'ange déchu. Mais il ne le dit pas, mais moi je le comprends. Vous allez aussi les comprendre. D'où il faut faire très attention lorsque vous avez affaire à un discours vague. Les choses de Dieu ne sont pas vagues, les choses de Dieu sont précises. Et quatrième chose, ils disent que le premier homme était noir. Et il y a des versions des Bibles qu'ils utilisent pour dire que Dieu a utilisé, si c'est la terre, l'immonde ou quelque chose comme ça, et que c'est noir, le premier homme était noir. Ils ajoutent en cinquième lieu, que Dieu lui-même est noir. Pourquoi Dieu est noir? La logique qui est utilisée ici est simple, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et comme l'homme est noir, donc comme Dieu l'a fait à son image, à sa ressemblance, c'est que Dieu aussi est noir. Et la sixième chose, ils disent que La Bible tout entière, de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire des Noirs qui a été troquée, qui a été falsifiée. C'est une bonne chose. Ce sont des bons enseignements. Mais j'aimerais vous avertir que ce débat est une vaste distraction qui vise tout simplement à vous détourner de la vision du salut. Vous savez que la Bible dit que dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront leur foi et ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Doctrine, c'est-à-dire à des enseignements des démons. Lorsque je lis ma Bible, nulle part la Bible ne met l'accent sur la race de Jésus-Christ. Nulle part la Bible ne met l'accent sur la race de Dieu. Ce n'est pas important. Si c'était important, Dieu allait le souligner pour dire que Jésus-Christ est blanc ou Jésus-Christ est noir. Nulle part, je ne vois pas écrire Jésus-Christ est blanc, Jésus-Christ est noir. Mais par contre, qu'il ait été blanc ou qu'il ait été noir, ce que je sais, c'est qu'il m'a sauvé par son sang. Qu'il ait été rouge ou qu'il ait été jaune, ce que je sais, c'est que en son nom, j'ai le pouvoir et l'autorité sur tous mes ennemis. Ce que je sais, c'est qu'en son nom, j'ai guéri le malade, je puis voir Dieu opérer les miracles. Je vous dis, frères et sœurs bien-aimés, il est temps où chaque enfant de Dieu doit savoir en quoi il croit et où est-ce qu'il va. Amen. Ne vous faites pas détourner en cours de route pour que vous puissiez perdre le chemin de votre salut. J'ai pensé beaucoup lorsque je suivais ces affaires sur les sites. Et je me rappelle avoir parlé à mon travail avec un jeune homme qui vient du Ghana. Toutes les fois que j'essaie de lui parler de l'évangile, il me dit, mais mon grand, regarde, c'est l'histoire des Noirs qui a été détournée. Je ne comprenais rien. Un jour, on s'est assis, je lui ai dit, frère, séparons les choses. Vous plongez parfois dans la science, que la science a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, mais la Bible ne me dit pas ça. Moi, je suis un bibliste. Je ne suis pas un scientifique. Je laisse à la science faire son travail et moi, je suis ce que la Bible me dit. La Bible me dit tout simplement, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Moi, je crois au Seigneur, je serai sauvé. La Bible me dit, impose les mains sur les malades au nom de Jésus-Christ. J'impose les mains et je vois les malades guérir. À partir de ce moment, je vais vous poser la question. Quand j'ai imposé les mains sur les malades et les malades ont guéri, quand j'ai invoqué le nom de Jésus-Christ, ai-je invoqué le nom de Jésus-Christ noir? Ai-je invoqué le nom de Jésus-Christ blanc? Ai-je invoqué le nom de Jésus-Christ jaune? Ou j'ai seulement invoqué le nom de Jésus-Christ, fils de Dieu? Je vous ai dit, et je vous l'ai déjà donné comme témoignage ici, j'aime toujours encourager l'Église de Dieu à développer chacun une expérience personnelle avec ses dieux. Parce que le jour où vous ferez face à des moments difficiles, vous retournerez à ce que vous avez expérimenté personnellement à votre Dieu. Et vous comprendrez que même si le monde entier abandonne Dieu, moi je ne peux pas l'abandonner parce que je l'ai expérimenté. Je vous ai raconté un jour que le premier miracle que mes yeux ont vu de mes mains, et c'est, je ne sais pas si Dieu m'est préparé au ministère avec ce miracle, un miracle sur lequel il ne peut se faire aucun doute de moi-même. Je n'ai pas besoin de témoignages de quelqu'un d'autre. Moi-même, je n'accepte rien au hasard. Et j'ai été formé pour ça. Mais lorsque Dieu a permis que cela arrive, je bénis son nom jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que même le jour où la terre tout entière va décider de tourner le dos à Dieu, si une personne reste sur le chemin du salut, comptez que cette personne-là, ce sera le frère Badi. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Je vous ai dit qu'on était à la permanence. Rabetel la liberté. Et la nuit, il y a un frère, le frère, je n'oublierai jamais les détails de ce récit, le frère Kapambongole, qui était déjà l'ancien à l'église et qui nous a entretenu la nuit sur la façon dont nous devons procéder pour faire la délivrance. Il nous a montré qu'il faut partager avec le malade, et je vous l'ai dit aussi, avec le malade ou celui qui a le problème, prenez d'abord le temps de partager avec lui le plus longtemps possible le message de la foi. Montrez-lui ce que Jésus-Christ a opéré à travers le temps. Si vous avez des témoignages de ce que Jésus a fait, donnez-les-lui. Pourquoi? C'est pour commencer à provoquer la foi dans son cœur. Parce que c'est la foi qui est le secret qui permet à Dieu d'opérer le miracle dans la vie d'une personne. Votre foi, c'est déjà quelque chose. Mais provoquez aussi la foi de celui pour qui vous priez. C'est la nuit qu'il nous a parlé de ça. Le matin, c'était ma journée pédagogique, je n'étais pas à l'école, et je suis resté seul, seul alors, à la permanence. Et j'ai vu une femme ou deux femmes entrer avec un homme, jusque dans la permanence. L'homme, c'était le mari de la femme, et l'autre femme, c'était sa maman. La femme ne faisait que baver, et elle enlevait le panier. Frère, complètement sens perdu. Et lorsqu'ils sont arrivés, le frère était dans l'angoisse, la maman dans l'angoisse. « Oh papa, nous sommes allés partout, ça n'a pas marché. On nous a dit de venir ici. On nous a dit de venir ici. » Il faut toujours prier dans la vie quelqu'un qui montre à quelqu'un d'autre, « Va là-bas. » Immédiatement, j'ai pensé à l'enseignement que j'ai eu la nuit. C'est pourquoi lorsqu'on organise des prières la nuit, frère, faites tout pour venir. Vous ne savez pas comment Dieu peut booster votre ministère par une simple parole que vous allez entendre. Eh bien, j'ai commencé exactement comme ce qu'on nous avait dit la nuit, à partager dans Marc, voici les miracles de Jésus, voici. Plus je partageais avec eux la parole de la foi, plus moi-même, je sentais que ma foi est en train de grandir. Et plus je voyais dans les yeux, non pas de la femme qui était dans le délire, mais plutôt de son mari, de sa belle-mère, je voyais qu'il commençait à rentrer dans l'univers de la foi. Alors, je parlais pendant très longtemps. Et j'avais une nette conviction que quand je vais prier, je dis « Amen, cette femme est libérée, sur place, je vais le voir. » Et lorsque le moment est arrivé, j'ai commencé à prier avec la femme. J'étais convaincu à 100% en disant « Amen, elle saute le pas. » J'ai dit « Amen !» Je la regarde « Frère, elle ne saute pas. » Et je dis « Bon Dieu, c'est quoi ça ?» Amen. Amen. Parfois, quand vous priez, vous attendez que Dieu fasse quelque chose dans l'immédiat. Ça, c'est nous, en tant qu'hommes, nous sommes blessés. Mais Dieu est Dieu. Il sait pourquoi il fait chaque chose. Amen. Dieu sait pourquoi il fait chaque chose. Amen. Peut-être c'est pour éviter que nous puissions accroître notre orgueil personnel. J'ouvre les yeux, la femme, frère. Alors, par la foi... Parce qu'on prie par la foi, mais on parle aussi par la foi. Par la foi, j'ai dit, frère, allez, elle est guérie. C'était un vendredi. Et dimanche, quand j'ai quitté la permanence, je viens chez vous. Oui, frère, on me donne l'adresse, il sort. Je le vois partir là-bas, frère. Je me suis encore incliné dans la prière. Je dis, Seigneur, mais c'est quoi ça? Eh bien, ils sont partis. Dimanche, quand nous avons fini le culte, le soir, et Dieu a mal arrangé les choses, je devrais aller avec un frère, un ami, à qui j'ai donné le nom de mon garçon Hippo, qui est un serviteur de Dieu, mais il a décommandé à dernière minute. Je me retrouve encore seul. Il faut que je quitte Massine quartier 3 pour aller à ma pelle au-delà des rails. J'ai pris ma Bible en train de chanter seul. Il n'y avait pas un autre témoin. Tout ce que je vous dis, il n'y avait pas de témoin. Non, il n'y a que le ciel qui est témoin. Et qui ont été délivrés, et moi. Et dans mes habitudes, je n'aime jamais sonner la trompette. Et ça, Guy Posé me l'a dit il y a 2 ou 3 semaines, que nous avons beaucoup de choses ici à l'église, mais nous n'en parlons pas. Je dis que j'apprends à parler de certaines choses. Pourquoi? J'aime bien que Dieu parle lui-même. Amen. Amen. Je suis parti. Amen. Seul. J'ai été surpris lorsque j'arrive à ma pelle. La femme que je vois, c'est la femme pour qui j'ai prié. C'est elle là debout, en train de transvaser de l'huile d'un fût dans les seaux et en train de faire le mouvement. Elle me regarde, me reconnaît. Ah, frère, Dieu est grand. Sa maman crie, frère, Dieu est grand. Moi, j'ai été épaté de me plus que eux. À partir de ce jour-là, frère, j'ai confirmé que Dieu existe réellement et que Dieu opère des miracles. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me le dire, je vous l'ai dit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me faire un commentaire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner un enseignement. Je le sais et je l'ai expérimenté. Mon cœur bouillonnait au-dedans de moi-même, palpitait même. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi? J'étais excité pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je dis, le frère m'avait attendu longtemps, comme je suis arrivé en retard au rendez-vous. Il est sorti, il est allé chez les voisins, il a laissé un mot qu'on vienne. Il est revenu en courant. Frère, voilà, lorsque nous avons quitté, on a pris l'autobus. Quand nous sommes arrivés à Pascal, lorsque nous sommes descendus de l'autobus, quand la sœur a touché tout simplement la terre, instantanément guéri complètement. Et lorsque nous sommes revenus ici à la maison, nous sommes revenus avec une femme totalement guérie. Alors que là, moi, je m'inquiétais. Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Frère, question que je me pose aujourd'hui. Vous venez me dire, par exemple, que Jésus était noir. C'est bien. Je ne dis pas qu'il était blanc, je ne dis pas qu'il était noir. Mais le Jésus que j'ai invoqué là, pour que mes yeux voient la démonstration de la puissance telle que celle-ci, il était noir ou il était blanc? Bref, c'est hors de question de se mettre sur de tels enseignements. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est quoi? C'est que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant, vous avez accès à la vie éternelle. Parfois dans la vie, les gens confondent l'essentiel et l'accessoire. La couleur de peau de Jésus-Christ, ça c'est un accessoire. Mais l'essentiel, c'est qu'il est venu sur la terre en tant que Fils de Dieu. Il est mort et il a versé son sang. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 à 19. Et Apocalypse, chapitre 5, verset 9, nous apprennent que Christ nous a rachetés par son sang. Christ nous a rachetés par son sang. Nous a rachetés de quoi? Il nous a rachetés de l'esclavage du péché. Voilà quelque chose d'essentiel. Parce que si nous demeurons dans nos péchés, nous ne pouvons pas avoir accès à la vie éternelle. Et si Jésus est venu sur la terre, la Bible dit qu'il a versé son sang pour faire quoi? Pour nous racheter de l'esclavage du péché. Et quelle est l'implication de ce rachat? À partir du moment où il nous a rachetés de l'esclavage du péché, eh bien, nous sommes qualifiés pour la vie éternelle. Et c'est pourquoi je vous dis que nous avons été rachetés, nous avons été sauvés. Nous avons la vie éternelle à cause du sang que Jésus-Christ a versé. Donc, le sang de Jésus devient ici quelque chose d'essentiel, quelque chose de fondamental dans notre foi. Mais nulle part dans la Bible, nulle part, pas même dans un verset, Dieu va faire allusion à la couleur de la peau de Jésus-Christ pour sceller notre salut. Là où la Bible c'était, nous devons nous taire, frère. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons apprendre. Nous n'avons pas encore tout appris avant de commencer à en créer d'autres. Réveillez-vous, Église. La Bible dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Dans le texte que nous avons lu de Jean, il y a des expressions sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention pour souligner la valeur de la mort expiatoire de Jésus-Christ. D'abord, au verset 14, la Bible dit que « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, le Fils de l'homme doit de même être élevé. » C'est-à-dire quoi? Il doit être crucifié. Ici, l'allusion est faite à la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et quand il y a mort, c'est que le sang doit aussi couler. Eh bien, au verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. » Qu'il a donné son Fils. L'expression « qu'il a donné son Fils » fait aussi allusion à la mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est-à-dire au sang qui a coulé pour que nous puissions être sauvés. Donc, le secret de votre salut, je signe et je répète, le secret de votre salut ne se trouve pas dans la couleur de peau de Jésus-Christ, mais le secret de votre salut se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans l'ancienne alliance pour vous amener jusqu'à l'autel des holocaustes pour comprendre la symbolique du sang. Car l'autel des holocaustes, lorsque quelqu'un péchait, il était qualifié pour la mort. Mais pour éviter la mort, il fallait qu'il amène lui-même une brebis, qu'il pose ses mains sur la brebis et qu'il puisse l'égorger pour répondre à la loi de Dieu qui dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. De même, nous tous, nous avons été rendus pécheurs à cause de la déchéance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et à partir de leur déchéance, notre sang a été infecté par le péché et nous tous, nous sommes porteurs d'un sang infecté. Et pour décontaminer ce sang, il fallait un autre sang. Et cet autre sang, c'est le sang de Jésus-Christ. Comme la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de péché. C'est que si Jésus ne mourait pas pour verser son sang, toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Voilà la chose essentielle de la foi chrétienne. Et donc, aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence de race, frère. Il n'y a pas de différence de race. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Moi, je dirais que devant Dieu, il n'y a que deux races. La race des sauvés et la race des perdus. Si vous êtes sauvés, vous êtes de la race de Dieu. Si vous êtes perdu, vous n'êtes pas de la race de Dieu. Vous n'êtes pas quelqu'un de la maison de Dieu. Eh bien, Actes chapitre 17, c'est Paul à Athènes. Paul ici nous révèle que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Écoutez, tous les hommes sont sortis d'un seul sang. Les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les femmes, les boiteux, tous, nous sommes sortis d'un seul sang, et c'est le sang d'Adam et Ève. Donc, à partir de cet instant-là, tous nous sommes égaux. Je condamne à la fois ceux qui cherchent à distraire les gens dans la couleur de peau, que ceux qui cherchent à exploiter la couleur de peau pour dominer sur les autres. J'ai déjà condamné ici ce qui est arrivé dans une église aux États-Unis où un pasteur blanc a refusé de bénir le mariage d'un couple parce que le couple était noir. Ça, c'est une honte pour l'Église de Dieu. Puisque s'il y a des hommes qui sont sauvés, qui connaissent bien la volonté de Dieu, ils comprennent que qu'ils soient rouges ou noirs, qu'ils soient jaunes ou verts, il est mon frère parce que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Peu importe sa race, nous restons et nous sommes tous frères. Raison pour laquelle, je l'ai déjà dit à une autre occasion, que lorsque on prend, j'ai posé la question à ma fille hier soir pour me dire dans les sciences médicales, est-ce qu'on peut prendre le sang des noirs pour transfuser à un blanc sans danger? Mais oui, bien sûr que oui, on peut prendre le sang même des pygmées. Eh bien, on va transférer à un blanc un allemand qui s'appelle la race pure. L'allemand ne va pas mourir. On peut prendre le sang d'un chinois. On le transfère à un Africain, l'Africain ne va pas mourir. Mais est-ce que les gens ne se sont pas posé la question, pourquoi les choses sont ainsi? Mais si vous prenez le sang d'un chimpanzé qui se trouve dans la forêt équatoriale et vous transfusez même à un pygmée qui est dans la même forêt équatoriale, le pygmée va mourir. Pourquoi? Cela nous enseigne quelque chose de fondamental, frères et sœurs. Et au-delà de cela, si un blanc, qui qu'il soit, va épouser une chinoise, même une pygmée ou un noir, ils vont donner naissance à un enfant. Mais s'il va faire comme ce que nous voyons dans le siècle présent, il va épouser son chien ou il va épouser son chat, ils vont rester ensemble pendant 50 ans, ils n'auront jamais un bébé. Pourquoi? Parce que on n'appartient pas à la même race. Eh bien, ce qui est important aux yeux de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, c'est nous appartenons à la race des enfants de Dieu. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire il a aimé le monde entier, c'est-à-dire il a aimé les noirs, il a aimé les chinois, il a aimé les jaunes, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui va croire, il devient mon frère. Amen. Peu importe la race, frère, il faut changer. Il faut vraiment changer de vision sur ces choses. Il faut changer de vision sur les enseignements qui peuvent circuler dans le siècle présent. Mais il faut que ces choses arrivent. Il faut dire à quiconque va vous apporter cet enseignement que ce qui est, il peut être noir, il peut être blanc. Comme la Bible n'en parle pas, moi aussi je n'en parle pas. Mais ce que je sais, c'est une chose, c'est que par son sang, j'ai été sauvé. Ce que je sais, c'est aussi une chose, c'est que par son sang, j'ai l'autorité sur toutes les puissances de l'enfer. Car la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ne l'ont pas vaincu à cause de la couleur de la peau de l'agneau. Comprenez bien ces choses, frères et sœurs. Et ce que j'ai encore trouvé d'alarmant dans ces enseignements, c'est que les gens se basent sur la Bible. Écoutez, en épistémologie, l'épistémologie qui est la critique des sciences, il y a quand même des règles de base pour pouvoir critiquer. Je ne peux pas prendre un document, ramasser certains versets pour dire, regarde, ici, Paul dit que nous devons sonder les prophéties et accepter ce qui est bon, utiliser cela pour moi. Et après, je me lève, je dis que Jésus et tous ses disciples, ils étaient tous des noirs. Où est-ce que je vais aller avec toi? Bref, il est temps que les enfants de Dieu ouvrent les yeux. Mais ces choses doivent arriver. Parce que la Bible avait déjà annoncé que l'apostasie arrivera. L'apostasie, c'est la déviation volontaire de la parole de Dieu. Et l'apostasie est arrivée. Et comme l'apostasie est arrivée, il faut rester réveillé. La Bible dit, et c'est Paul qui disait aux Colossiens que prenez garde à vous-même, frère, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde à vous-même, c'est-à-dire faites attention, soyez sur vos pieds. Que personne, qui qu'il soit, ne fasse de vous sa proie. La proie, c'est un mot qui appartient dans les domaines de la chasse, dans les domaines de la prédation, des prédateurs. Donc tu deviens une proie lorsqu'il y a un prédateur qui vient te dévorer. Mais fais attention pour ne pas devenir la proie de quelqu'un juste parce qu'il se base, sur la philosophie, l'art de bien parler, de convaincre, une sagesse qui est basée sur les choses de ce monde. Oh, les paléontologues ont vu, oh, on a fait la théologie, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, donc ceci est arrivé. Oui, l'archéologie est bonne, la carbone 14 c'est bon, mais dans la mesure où cela est conforme à la parole de Dieu. Si cela va en contradiction avec la parole de Dieu, moi j'ai le choix de choisir la parole parce que c'est la parole qui me donne la vie, parce que je vis ce que la parole a fait. Et qui se base sur les traditions des hommes. Non, ce ne sont pas les traditions des hommes, pas même des visions pour me dire Dieu m'a révélé. Ce jeune homme, quand il parle, il m'a étonné en disant certaines choses. Il dit que non, je le sais parce que j'étais là et j'ai vu que les disciples étaient ceci, cela. C'est-à-dire, c'est un discours totalement hérétique. Vous qui voyagez sur Internet, soyez toujours prudents. Voilà pourquoi Dieu vous donne des bergers. Lorsque vous tombez sur un enseignement auquel vous n'êtes pas habitué, venez voir le pasteur. Je suis là. Posez la question, papa, voilà l'enseignement que j'ai eu. Et je vais vous dire, oui, c'est un bon enseignement. Voilà ce que la Bible dit. Ou bien non, faites attention, vous risquez de mettre votre vie en danger. Bientôt, Jésus-Christ revient. Et nous avons tout intérêt à rester sur le chemin de la foi. Alors, dimanche prochain, nous continuerons avec la deuxième chose. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons dire un mot de prière à Dieu.